Vous écoutez Europe 1, il est 22h. C'est l'heure du journal, Lénaïck Monnier.
Lorsque le stade 3 adviendra, nous prendrons les mesures nécessaires pour répondre à l'épidémie, prendre en charge les malades et assurer la continuité de la vie économique et sociale du pays.
La France reste en stade 2, mais le coronavirus continue sa propagation sur le territoire français. 613 cas désormais, 190 de plus qu'il y a 24 heures. Emmanuel Macron appelle chacun à la responsabilité, ne plus visiter les anciens dans les EHPAD pendant un temps. Fausse bonne idée, nous dira Pascal Chambert, l'association des directeurs d'établissements pour personnes âgées.
Si on suspend les visites, il y a peu de probabilité que le virus entre dans un établissement. Maintenant, le risque, c'est qu'on peut avoir des gens pendant 2-3 mois qui n'ont aucune visite.
Dans ce journal également, nous verrons les conséquences sur notre quotidien quand la France passera au stade 3. Nous examinerons également cette nouvelle du pape François qui a accepté la démission du cardinal Barbarin. Et puis le foot Marseille-Amiens, c'est la mi-temps Stéphane Frangy.
Oui, et 1-0 pour les Marseillais face à Amiens. Le but de Morgan Sanson dans les arrêts de jeu.
Et à 22h20, l'interview écho d'Emmanuel Duteil. La Banque Postale prend du poids. Elle a finalisé le rapprochement avec CNP. Pourquoi faire ? On verra ça avec Rémi Weber, président du directoire de la Banque Postale. Et puis bien sûr, la bourse et vos prévisions météo pour demain avec Anissa Haddadi.
Europe 1.
Mais avant de développer ses titres, les aveux 17 ans après de Michel Fourniret, il a bien tué la petite Estelle Mouzin. Chloé Triomphe, celui qu'on a surnommé l'ogre des Ardennes, était entendu depuis avant-hier.
Michel Fourniret a donc enfin parlé devant la juge d'instruction parisienne Sabine Kéris, 8e magistrate en charge de ce dossier qui remonte à 17 ans en arrière. Durant ces 3 jours d'audition, le tueur en série n'a toutefois donné aucun détail, mais il a confirmé avoir tué la petite fille de 9 ans, une avancée substantielle pour celui qui, au fil des auditions depuis 2018, avait joué au chat et à la souris avec les juges jusqu'à ce que son ex-épouse Monique Olivier revienne en novembre dernier sur l'alibi qu'elle avait toujours fourni pour ce fameux 9 janvier 2003 à Guermantes. Depuis, Michel Fourniret avait été longuement et patiemment réentendu par la juge. Il avait invoqué sa mémoire défaillante, tout en concluant que même si rien ne lui revenait, il fallait quand même le considérer comme coupable. Ces derniers jours, la persévérance de la magistrate a donc payé, même s'il reste beaucoup d'interrogations sur les circonstances du meurtre, des explications précises, étayées, aussi bien sur le fond que sur la forme, qu'attendent désormais le père d'Estelle, Éric Mouzin, et ses avocats pour s'exprimer.
Et les précisions de Chloé Triomphe ce soir donc sur Europe 1. Pas de crèche ni d'école, de la maternelle au lycée pour les 15 prochains jours dans l'Oise et dans le Haut-Rhin. La liste des établissements est à disposition sur les sites des deux préfectures. Puisque les premières mesures drastiques ont fait leur entrée, Édouard Philippe l'a confirmé, le coronavirus continue de gagner du terrain. On en est à 613 cas désormais, 190 de plus qu'il y a 24 heures. Malgré tout, la France reste en stade 2, parfois dit avancé, renforcé, dans les zones où se trouvent des regroupements de cas importants. Et un stade 3, clairement, est envisagé par le Premier ministre ce soir.
Les mesures du stade 3 seront déclenchées sur tout le territoire quand ce sera nécessaire, pas avant. Je tiens d'ailleurs à dédramatiser le passage au stade 3. Ce stade, je le rappelle, correspond simplement, à une circulation active du virus sur l'ensemble du territoire. Le président de la République l'a dit, les médecins le savent, c'est désormais inexorable. Mais notre système de santé a les moyens d'y faire face. Lorsque le stade 3 adviendra, nous prendrons les mesures nécessaires pour répondre à l'épidémie, pour prendre en charge les malades et assurer la continuité de la vie économique et sociale du pays, y compris la vie scolaire, qui devra continuer.
Édouard Philippe au micro Europe 1 de Claudia Bertram. On l'a donc compris, la France devrait passer incessamment au stade 3 de lutte contre l'épidémie, sans doute dans les prochains jours. Victor Dolande, quels sont les critères qui font basculer vers ce niveau supérieur ?
Alors en fait, on passera à ce stade 3 quand on n'arrivera plus à expliquer tous les cas de contamination, quand on ne pourra plus remonter la fameuse chaîne de personnes infectées. pour le moment, n'explique encore plus de 70% des cas en France. Autre critère très concret, pour passer au niveau supérieur de l'épidémie, il faut que chacun d'entre nous connaisse quelqu'un dans son entourage qui est le virus. C'est le cas, par exemple, pour les épidémies saisonnières de grippe. On connaît toujours une personne autour de nous qui a eu la grippe. Alors oui, il y a plusieurs foyers de contamination importants. C'est le cas dans l'Oise, dans le Morbihan, en Haute-Savoie, à Mulhouse, mais il y a encore beaucoup de zones où il n'y a que quelques cas.
Alors ce niveau 3, il implique quoi exactement pour notre vie quotidienne ?
Alors du côté des services publics, pas de fermeture généralisée des écoles dans tout le pays, mais des décisions au cas par cas. Les rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu confiné resteront interdits. Ensuite, il s'agira de mobiliser tout le monde de la santé, premier secteur impacté. Ça veut dire que tout le personnel hospitalier sera susceptible d'être rappelé, mais pas que. Les médecins en ville seront aussi fortement mobilisés. Il faudra ensuite faire un tri des personnes contaminées. Les cas les plus sévères seront toujours hospitalisés, avec une vigilance renforcée pour les personnes âgées. En revanche, les cas sans gravité seront invités à rester chez eux pour ne pas surcharger les hôpitaux. Et ce qu'il faut bien comprendre plus largement, c'est que le gouvernement aura les mains libres pour prendre des mesures plus contraignantes si l'épidémie l'impose.
Merci Victor Delande pour ces précisions. En tout cas, vous connaissez les gestes qui évitent d'être contaminés. Se laver les mains en fait bien entendu partie. Et bien fini, les gels au prix exorbitant, le décret qui encadre leur tarif a été publié. Pas plus de 3 euros les 100 millilitres, 15 euros le litre. Par décret également, on a appris que les pharmaciens pouvaient désormais fabriquer leurs propres solutions. Éviter de trop se toucher est également l'une des préconisations. Emmanuel Macron, qui était en déplacement dans un EHPAD à tout à l'heure, demande à chacun d'éviter autant que possible les visites aux personnes âgées qui sont les plus fragiles. Mais pour Pascal Chanvert de l'Association des directeurs d'établissements pour personnes âgées, c'est une déclaration qui est une fausse bonne idée.
L'hypothèse que les personnes âgées en établissement, et c'est la même chose à domicile, ne pourraient pas voir leurs proches pendant 3 mois, ça mérite d'être largement discuté. Parce que je vous rappelle quand même, chaque hiver, il y a des épisodes grippaux qui font entre 7 et 10 000 morts par an. Et pour autant, nous n'interdisons pas aux personnes âgées de voir leurs proches. Je comprends l'objectif du président de la République, mais je me pose la question de savoir si c'est complètement opérationnel. Il faudra en tout cas travailler de façon précise là-dessus. Faire que tous les résidents d'une maison de retraite ne puissent pas voir pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois leurs parents, leurs amis, les gens qu'ils aiment, ça me paraît extrêmement préjudiciable pour tout le monde.
Et propos recueillis par Marion Gauthier. Le coronavirus qui s'est également invité aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Un député est toujours en réanimation, un salarié de la buvette est infecté et 4 autres sont suspectés. Adrien Beck, vous étiez à l'Assemblée aujourd'hui et il faut bien le dire, c'est une institution à l'arrêt, plus d'élus, plus de visites.
Ce matin encore, une classe de CM2 s'arrête devant les bustes d'Olympe de Gouges et de Jean Jaurès. Depuis, la célèbre salle des 4 colonnes s'est vidée, visite reportée. Pour cause de trêve électorale, la plupart des députés sont rentrés chez eux. Stéphane Travert, élu dans la Manche, a prévu des mesures pour ses collaborateurs qui restent au Palais Bourbon.
Nous pouvons les encourager à faire aussi du télétravail pendant quelques jours. Cette période de trêve n'est pas une période de vacances puisque nous continuons à travailler. Il y a du travail sur le terrain, bien évidemment.
Avec les vacances parlementaire, la ruche Assemblée nationale s'est vidée. Une chance pour nous, dit un pilier des lieux. Mais les députés présents ces derniers jours sont inquiets. La buvette de l'Assemblée est un bouillon de culture, confie l'un d'eux. Le député du Haut-Rhin, Bruno Fuchs, lui, prend sa température 2 fois par jour depuis lundi.
Il vaut mieux que je reste ici 24-48 heures pour voir comment évoluent éventuellement des symptômes et protéger des concitoyens avec lesquels j'aurais pu être en contact. Je regagnerai ma circonscription samedi ou dimanche.
Et dans un palais Bourbon vide pour 2 semaines, l'ensemble des restaurants et buvettes seront désinfectés ces prochains jours.
Les précisions d'Adrien Beck pour Europe 1. Et puis pour être complet sur cette page consacrée au coronavirus, ce chiffre ce soir. Dans le monde, on a passé la barre symbolique des 100 000 personnes touchées, 49 décès ce soir également en Italie. Et la liste des annulations d'événements qui continue de s'allonger, comme le match Strasbourg-PSG qui devait se jouer demain en Ligue 1 et qui est reporté. Premier report dans le championnat français. Le Milan-San Remo, la classique cycliste est également annulée, tout comme les finales de Coupe du Monde de ski alpin qui devaient se dérouler en Italie à Cortina d'Ampezzo.
Europe 1, le journal de la nuit.
Lénaïque Monnier.
Le pape François accepte donc la démission du cardinal Barbarin. Il n'est plus archevêque de Lyon. Le souverain pontife avait refusé cette démission une première fois. Philippe Barbarin a été mis en cause, puis relaxé pour son silence sur les abus sexuels du père Prénat, qui sera d'ailleurs fixé sur son sort dans 10 jours. François Devaux est le fondateur de la Parole Libérée, association qui regroupe les anciennes victimes du père Prénat. Il est satisfait de cette décision.
Je pense que c'est une bonne décision et que si elle avait été prise un petit peu plus tôt, je pense que ça aurait évité beaucoup de désillusions. Mais voilà, c'est à l'image de la façon dont l'Église gère ses problématiques d'abus sexuels en son sein. Et on espère beaucoup de clairvoyance du pape et elle arrive encore une fois bien tardivement. Il n'y a pas de triomphalisme, on retrouve un peu de cohérence. Et ça c'est une satisfaction, mais ça va au bénéfice direct de l'Église, des catholiques et de toute leur quête de cohérence, si vous voulez.
Et propos recueillis par Jean-Luc Bougeon, correspondant d'Europe 1 à Lyon. En France, un tiers des femmes estiment que leurs droits ont progressé depuis un an. Un quart d'entre elles jugent que l'égalité professionnelle a atteint un niveau satisfaisant. Résultat du baromètre Priorité Femmes, réalisé par la Fondation des Femmes et Kantar. Des inégalités qui persistent, les violences faites aux femmes, elles ne reculent pas. Pour en parler, Marlène Schiappa, elle était l'invitée du Grand Journal ce soir sur Europe 1. Pour anticiper la journée internationale des droits des femmes, c'est dimanche, le 8 mars, comme chaque année, la secrétaire d'État qui a évoqué le sexisme dans son milieu, la politique.
La sphère politique, elle n'est pas à part de la société. Et moi, je suis toujours révoltée quand j'entends des gens nous dire « Ah, il y a du sexisme en politique partout, sauf dans mon parti. Hein. Dans mon parti politique, tout le monde est gentil, génial, super et pas sexiste. » C'est pas vrai. Un parti politique, il n'est pas en dehors de la société.
Comment
un gouvernement, il n'est pas
traduit,
en dehors
Marlène
de la société. La journée d'une femme politique n'est pas la même que celle d'un homme politique. Je vais vous donner une anecdote. Moi, quand je suis en déplacement professionnel à l'étranger, on me demande toujours qui est en train de garder mes enfants, qui ont 13 et 8 ans. Mmh. Et quand je réponds que c'est leur papa, on me répond toujours « Ah, il est gentil ». J'ai plusieurs collègues hommes qui ont des familles nombreuses, qui ont plus d'enfants que moi, qui ont des bébés et même des nouveau-nés. On ne leur demande jamais où sont leurs enfants. Et si, par hasard, ça vient dans la conversation parce qu'on l'a demandé à une femme et qu'ils disent que la maman est en train de garder les enfants, personne ne dit jamais « elle est gentille, elle pourrait être en train de faire autre chose ». Parce que ça va de soi, comme si le rôle naturel d'une femme, c'était toujours d'être à la maison avec les enfants. Même en 2020, on n'est toujours pas sorti de l'image de Caroline Ingalls.
Marlène Schiappa, invitée de Nathalie Lévy ce soir sur Europe 1. On a par ailleurs appris ce soir la démission du président de la Fédération de roller et de skate. Il quitte ses fonctions, Nicolas Belloire. Lui qui a été critiqué pour sa gestion de plusieurs cas d'agression sexuelle. Plusieurs plaintes ont été déposées par des joueuses. Et puis Placido Domingo, accusé de harcèlement sexuel par plusieurs femmes, renonce lui à chanter Don Carlo à l'opéra. C'était prévu à Londres cet été. La liste de Rachida en forte progression des intentions de vote au premier tour des élections municipales à Paris. Elle gagne 4 points à 24% et talonne Anne Hidalgo. La maire sortante n'a plus qu'un point d'avance d'après un sondage Ipsos. Le duo de tête devance nettement la liste LaREM d'Agnès Buzyn, stable à 19% depuis une précédente enquête publiée il y a 2 semaines. Et puis à l'étranger, l'Union européenne cherche à dissuader les migrants de se rendre en Grèce. De nouveaux heurts ont été signalés ce matin à la frontière turco-grecque. Des centaines de migrants ont tenté de passer la frontière. Athènes fait face depuis une semaine à l'afflux de réfugiés, depuis que la Turquie a décidé de ne plus les retenir sur son territoire. N'allez pas à la frontière, elle n'est pas ouverte. Voilà le message envoyé tout à l'heure par le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Et puis une opération internationale a permis un coup d'arrêt à plusieurs réseaux de trafic de médicaments un peu partout en Europe. 165 personnes arrêtées, dont une vingtaine en France. 8 millions d'euros de marchandises ont été saisies. C'est le résultat d'une enquête menée depuis 3 ans. Les sports, et on vous le disait il y a un instant, demain, pas de match à la Meino. La rencontre Strasbourg-PSG est reportée à cause du coronavirus, mais ce n'est pas le cas au Vélodrome. On suit le match OM Amiens avec vous, Stéphane Frangy, l'OM qui mène à la maison.
Oui, on est là, 1-0 pour les Marseillais, 52 minutes de jeu, on est en seconde période et l'ouverture du score, elle était dans les arrêts de jeu de la première période. C'est Morgan Sanson qui est bien servi dans l'axe par Kevin Strootman. Il lance une petite course et il frappe des 20 mètres, ballon fuyant qui trompe Régis Gertner, le gardien de Amiens, qui semblait sur la bonne trajectoire mais qui est trompé au dernier moment. Et on a pu voir juste après vraiment l'immense soulagement des Marseillais qui ont vraiment eu beaucoup de mal dans cette première période. donc pas et qu'ils étaient vraiment mis en danger par Amiens, on le rappelle, qui est avant-dernier de cette Ligue 1. Mais ils ont gâché beaucoup leur football, des joueurs qui se télescopaient, qui se marchaient sur les pieds, des ballons qui n'arrivaient pas à destination. Attention là, peut-être l'égalisation de Amiens, ce cafouillage dans la surface de réparation. Et les Amiens qui revient au score un partout. C'est sous Guirassy, incroyable, les Marseillais qui avaient fait le plus dur. Et sur une action un petit peu cafouillée, ah non, ça sera refusé finalement. Le drapeau du hors-jeu se lève. Gros ouf de soulagement dans les tribunes du Vélodrome. Toujours 1-0 face à Amiens. Mais attention aux erreurs d'inattention, comme on vient de le voir à l'instant.
Merci Stéphane Frangy. On reviendra vous voir avant 22h30. Un œil sur la météo avec vous, Anissa Haddadi. Un peu de répit pour demain.
Oui, enfin les naïcs, ça se calme et ça fait du bien. Alors ça se calme un tout petit peu, hein, parce qu'on aura tout de même sur le quart sud-ouest, au sud de la Garonne et sur les Pyrénées, des averses qui vont durer toute la journée. Demain, ce sont des petites averses. Avec d'ailleurs sur les Pyrénées, le Massif central et les Alpes, des chutes de neige. Demain, dès le matin, avec un risque d'avalanche assez important sur les Pyrénées. De la Bretagne à la Gironde, le ciel est couvert. Mais le temps reste sec. Et puis sur tout le reste du pays, hein, donc une belle moitié est quand même, pas de pluie. Et même sur le nord, la région parisienne, les pays de la Loire, le Limousin, la Champagne-Ardenne, le pourtour méditerranéen, un soleil qui fera quand même de très belles percées demain dans la journée. Sur le golfe du Lion, attention, le vent se renforce et c'est pas n'importe quel vent. Le Mistral et la Tramontane demain jusqu'à 90 km/h. Les températures, nous aurons des gelées au centre et à l'est demain matin. 6 à 8 au bord de la Méditerranée, c'est doux. 0 à 3 au nord, 8 à 10 sur la façade à Atlantique. Et puis dans l'après-midi, nous aurons 7 degrés à Aurillac, 8 à Belfort, 10 à Strasbourg, 12 pour Toulouse et Paris et jusqu'à 16 degrés à Nice.
Et c'était la météo signée Anissa Haddadi.
Europe 1.
22h16 sur Europe 1, vous restez avec nous. Dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com et puis l'invité éco également. Dans le prochain quart d'heure, Emmanuel Deteille reçoit ce soir Rémi Weber, président du directoire de la Banque Postale. A tout de suite. Et comme promis, on fait le point sur la bourse avec vous, Claire Maître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Lénaïque.
On va débuter avec Wall Street, le coronavirus qui impacte encore les marchés. Wall Street qui clôture dans le rouge.
Oui, des marchés qui étaient paniqués en début de séance face à l'ampleur de l'épidémie, mais qui ont réduit leurs pertes en fin de parcours. Ça donne un Dow Jones en repli de 0,98% à 25 865 points. Le Nasdaq perd 1,87%, 8 576 points. La déprime est amplifiée ce soir par la chute brutale des cours du pétrole. La réunion des pays de l'OPEP+, les pays exportateurs de brut, s'est terminée par un échec aujourd'hui à Vienne. La Russie a refusé de réduire davantage sa production. Du coup, le baril de brut léger américain, il s'effondre de 10% sur les 41$ à New York. Les valeurs pétrolières encaissent le coup, moins 2% pour Chevron, moins 4,8% pour ExxonMobil. Et puis, on a encore énormément de grandes valeurs en baisse ce soir, inquiète à cause du coronavirus, moins 5% pour la banque JP Morgan, moins 2,3% pour Nike, moins 3% pour Microsoft, moins 2% pour Facebook. Du côté des devises, l'euro grimpe de 0,52%. Il s'échange contre 1,1297$.
Et à Paris, c'est pareil, un nouveau vendredi noir.
Oui, le CAC 40 a plongé de 4,14%, secoué lui aussi par le coronavirus. Il termine à 5139 points. Le bilan hebdomadaire est encore très mauvais. L'indice parisien a perdu plus de 3% après un plongeon de 12% la semaine dernière. Toutes les valeurs du CAC sont dans le rouge, à l'exception de Renault. Airbus chute de 7,6%. L'avionneur n'a enregistré aucune commande en février. Et séance très compliquée aussi pour les valeurs liées au pétrole, puisque le baril s'est effondré. Et Total perd près de 5%, moins 8% pour Technip FMC.
Et puis l'action Essilor Luxottica, elle dégringole, moins 4% quasiment.
Oui, le spécialiste de l'optique a prévenu que l'épidémie de coronavirus affecterait sa croissance au premier semestre. Et puis Air France KLM reprend tout de même 3% au terme d'une semaine catastrophique. Mais le titre de la compagnie est dopé ce soir par la chute du baril de pétrole. Air France KLM a quand même perdu 42% depuis le 1er janvier. La fin de semaine est difficile pour les marchés partout en Europe. Londres chute de 3,6%, Francfort perd 3,3%, moins 3,1% pour Bruxelles, moins 3,5% pour Madrid. Le CAC 40 lui perd 4,1% à 5139 points.
Eh bien, merci pour ce tour d'horizon, Claire Lemaître de boursier.com et bon week-end.
Bon week-end.
On passe à l'interview éco, comme tous les soirs, avec Emmanuel Duteil, votre invité, Rémi Weber, président du directoire de la Banque Postale.
Bonsoir Rémi Weber.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président du directoire de la Banque Postale. La Banque Postale qui vient de se marier avec CNP Assurance, un grand nom de l'assurance, et vous créez, alors c'est le mot à la mode, un banque-assureur, au même titre que Crédit Agricole, au même titre que BNP. Ça y est, on est dans la cour des grands, enfin, à la Banque Postale.
En tout cas, nous avons grandi. C'est évidemment une très 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 grande semaine pour nous. La date du 4 mars 2020 est la deuxième date la plus importante depuis la première, qui est la création de la Banque Postale en 2006. Donc cette banque encore très jeune devient aujourd'hui un banque-assureur européen de premier plan avec ce rapprochement avec CNP Assurance.
J'ai relu les papiers qui avaient été écrits au moment de votre lancement. Pour le dire très simplement, toute la place rigolait en disant « la banque des pauvres, ils n'y arriveront jamais ». Aujourd'hui, vous êtes cinquième ou sixième banque française, si on regarde uniquement la partie bancaire. Sacré parcours, ils avaient eu tort de rire.
Bah écoutez, moi je suis content que les gens rient en général, mais je pense que...
Bah là, ce n'était pas un rire très sympathique.
Non, non, ce qui est important pour nous, c'est que nous avons choisi stratégiquement de développer les métiers de la finance au sein du groupe La Poste. Nous l'avons fait méthodiquement, avec professionnalisme. Les postières et les postiers ont voulu ce métier, ils ont voulu l'apprendre. 312 000 jours de formation par an pour les mettre à niveau de devenir des banquiers de premier plan, ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est une formidable épopée. Et cette nouvelle opération concrétise finalement la confiance que petit à petit l'ensemble des acteurs ont mis dans notre banque.
La Banque Postale faisait déjà de l'assurance, elle distribuait déjà les produits de CNP Assurance. On est sur quelque chose de très financier pour vos clients. Là, ça ne change pas grand-chose.
C'est un changement de taille considérable de notre banque. Nous devenons par la taille le 11e banquier de la zone euro et nous allons avoir des perspectives de développement beaucoup plus grandes dans de nouveaux métiers que nous mettrons évidemment à disposition de nos clients avec des offres nouvelles, renouvelées, et je crois que ça leur permettra d'être encore plus à l'aise dans ce grand groupe, donc un grand banque-assureur public au service finalement de tous ses clients. C'est ce qui fait d'ailleurs aussi notre force.
Vous avez lancé une banque en ligne aussi
récemment,
ça marche ?
Ma French Bank, 7 mois après le lancement, fin juillet dernier, nous sommes aujourd'hui à 150 000 clients actifs, donc qui ont mis de l'argent sur leur compte. C'est, je crois, le lancement, un des plus beaux lancements de banque digitale complète.
Ça coûte très cher d'aller chercher ses clients. Ce n'est pas très rentable.
Ça coûte très cher d'aller chercher parce qu'on développe de nouveaux outils, mais il faut que vous sachiez que nous n'achetons pas les nouveaux clients. Nous le faisons avec qui, au fond ? C'est bien la force de notre groupe. Pratiquement 70% des nouveaux clients de MaFrench Bank, notre banque digitale, nous viennent par le réseau physique des bureaux de poste. Ce sont les chargés de clientèle au guichet qui ouvrent en 10 minutes le compte. Carte en main, vous sortez, vous êtes client de ma French Bank. Et c'est ça qui fait notre force, à savoir la proximité humaine et la modernité digitale à fond.
Vous êtes, et vous avez surtout été pendant très longtemps, la banque des publics les plus défavorisés.
Nous le sommes toujours.
Vous l'êtes toujours. En revanche, vous êtes fait un petit peu tacler quand même ces derniers temps. Vous avez même eu une amende. Le gouvernement a encore rappelé à l'ordre récemment toutes les banques, pas particulièrement vous, en disant « continuez à faire un effort significatif ». Pour les publics défavorisés.
Alors attendez, nous sommes la seule banque qui s'occupe de la mission d'accessibilité bancaire, à savoir finalement les gens qui sont en pré-bancarisation, qui n'ont pas d'autre solution que d'aller chez nous. Et nous sommes de très loin la première banque des clientèles dites financièrement fragiles. L'amende dont vous parlez n'a rien à voir avec les frais. C'était simplement le fait que nous étions dans des logiques de distribution de cash sur une réglementation qu'il fallait faire évoluer chez nous, qui n'était pas tout à fait...
Mais le gouvernement a lancé à nouveau un appel à toutes les banques, vous les premiers.
Nous sommes objectivement extrêmement vertueux. Sur 3,3 millions de clients financièrement fragiles recensés globalement par la Banque de France, 1,6 million sont clients de la Banque Postale. Et nous avons cette responsabilité, nous en sommes extrêmement fiers. Et ce n'est pas parce que nous changeons de taille, ce n'est pas parce que nous devenons internationaux
c'est un point très important.
Cette dimension de banque et citoyenne, et même de plus en plus, demain, de banque et assurance citoyenne.
Est-ce que vous pourriez aussi devenir la banque des riches ?
Je vous dis ça parce que... Nous sommes la banque.
Vous êtes la banque de tout le monde aujourd'hui, mais...
Nous sommes la banque des riches.
On sait que la Banque Postale a envie de racheter, en tout cas regarde le dossier HSBC. HSBC veut se séparer de sa banque de détail en France, et souvent, on vous cite comme un acheteur potentiel.
Alors, nous avons une banque privée qui s'appelle BPE, qui marche très 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 bien, qui est en fort développement. Elle a doublé ses encours en 5 ans de deux fois. Et évidemment, nous continuons de regarder aussi bien pour le marché du patrimonial que, je dois dire, pour le marché des entreprises, qui est pour nous un axe de diversification extrêmement fort. de regarder quand il y a des possibilités, le cas échéant.
Donc vous regardez, mais vous êtes intéressé, ça va se faire ou ça ne va pas se faire ?
Nous sommes intéressés à regarder, nous avons marqué notre intérêt. Il faut que ce soit dans le périmètre qui corresponde à nos besoins stratégiques.
Ce qui n'est, semble-t-il, pas le cas aujourd'hui ?
Ça dépend finalement du vendeur. Moi, je sais ce que je peux ou veux acheter, je ne sais pas ce que les autres veulent vendre.
Une toute dernière question d'actualité autour du coronavirus. Oui. Vous êtes donc dans les bureaux de poste, banques sont là. Comment vous faites là, au moment où on se parle ? On est vendredi soir, il est 22h26. Comment vous faites pour assurer la sécurité de vos personnels ?
Écoutez, nous avons fait beaucoup, beaucoup de choses. Nous avons supprimé les déplacements quand c'est nécessaire. Nous avons séparé des équipes pour éviter le risque d'une équipe sur un seul site. Nous avons jusqu'ici réussi à maintenir l'ouverture de tous les bureaux de poste, ce qui n'est pas toujours évident. Mais donc là, on le fait parce qu'il faut faire les choses progressivement. On est en train de supprimer au fur et à mesure toutes les grandes manifestations que nous avions imaginé faire sur cette période qui est devant nous.
Est-ce que vous demandez aux clients de venir le moins possible, eux aussi ?
Pas encore. Je pense qu'on fait à peu près respecter les choses correctement. C'est évidemment pour nous aussi un point important pour tous nos clients entreprises, que nous avons fait une revue assez détaillée de l'ensemble des portefeuilles, de la sensibilité de nos portefeuilles par secteur. Et bien évidemment, nous allons tout faire pour.
Vous avez des remontées aujourd'hui de chefs d'entreprise qui vous disent « je suis étranglé par cette crise ».
Pas encore étranglé, mais ça commence à venir pour certains de commencer à mesurer l'impact qu'ils pourraient avoir si ça devait durer trop longtemps. Nous ferons évidemment tout ce qu'on peut pour les accompagner dans cette période difficile.
Tout ce qu'on peut, c'est-à-dire que vous êtes prêt à...
On va regarder tous les éventuels décalages, trésorerie et autres dans la bienveillance la plus grande. C'est une question de solidarité nationale.
Eh bien, un grand merci en tout cas d'être passé ce soir dans les studios d'Europe 1. Rémi Weber, le président du directoire de la Banque Postale, était notre invité. On se retrouve lundi, 22h20.
Et d'ici là, on retrouve votre interview Emmanuel Dutheil en intégralité sur notre site europe1.fr. 22h26, vous restez avec nous. Dans un instant, on jette un œil à la une de vos journaux de demain et on refait un détour par le Vélodrome. Et voici donc ce que vous pourrez lire demain dans vos journaux, dans vos magazines, avec Libé qui, une semaine après, revient sur le désormais célèbre « On se lève et on se barre », phrase lapidaire que l'on doit à Virginie Despentes. Il y a moins d'une semaine, elle signait une tribune, un manifeste presque, dans les colonnes déjà de Libération, au lendemain d'une cérémonie des Césars au goût d'inachevé. Retour donc sur une semaine agitée. Dans son édito, Laurent Geoffrin assimile ce texte à un coup de poing, à un geste politique, une tribune clivante qui a été soit accueillie positivement, soit avec effroi. Preuve en tout cas que ce texte, écrit Laurent Geoffrin, est l'expression d'une révolte authentique, celle des femmes. Libération qui n'échappe pas non plus à l'actualité coronavirus et la France qui adopte les premières mesures drastiques. Si l'Hexagone n'est pas encore en stade 3 ce soir, il n'y aura ni crèche, ni école, collège ou lycée dans l'Oise ou le Haut-Rhin. Mais l'Alsace en a connu d'autres, écrit Laurent Baudin dans Le Quotidien éponyme, et des soubresauts pour l'heure bien plus grave au regard de sa longue et chaotique histoire. Mais, ajoute-t-il, cette date du 6 mars 2020 va rester dans la mémoire de toutes les jeunes générations, en particulier celles qui n'ont pas connu la guerre. La guerre, il en est question dans Le Figaro qui nous emmène à Idlib. Le journal est parti à la rencontre des réfugiés, de ces prisonniers à ciel ouvert en Syrie, des civils épuisés après 9 ans de guerre dans cette ultime bataille. Voilà donc pour les unes de la presse de demain. Et on retourne donc au stade Vélodrome où Stéphane Frangy, vous continuez de suivre pour nous ce match entre Marseille et Amiens. C'est la 28e journée de Ligue 1 et l'OM qui a doublé la mise.
Voilà, on a passé l'heure de jeu, ça y est, 2-0 pour les Marseillais. On rappelle les buteurs en première période. C'est Morgan Sanson qui avait ouvert le score dans les arrêts de jeu d'une frappe des 20 mètres. Et en seconde période, eh bien, il est imité par Dimitri Payet qui est parti tout seul comme un grand. Il était le long du couloir gauche, le long de la ligne de touche. Il a repiqué au centre, passé devant la défense amiénoise avant d'ajuster une frappe qui est quand même contrée par un défenseur Chedjou et qui trompe Régis Gürtner qui est pris à contre-pied. 2-0 pour les Marseillais, bien heureux de tenir ce score vu qu'ils ont quand même beaucoup mâché leur football ce soir, même s'ils avaient plus le pied sur le ballon, même s'ils ont été assez rarement mis en danger. On a vu beaucoup de ballons qui n'arrivaient pas à destination. On vient de voir encore à l'instant Steve Mandanda, le gardien et capitaine, pourtant un homme sûr, faire une relance hasardeuse qui aurait pu faire très très mal, qui n'a pas été exploité par Amiens. Marseille qui gère, Marseille qui va encore prendre de l'avance et conforter sa deuxième place au classement si le scénario en reste là. 68 minutes de jeu et 2-0 pour les Marseillais.
Merci Stéphane Frangier en direct du Vélodrome. On vous retrouve à 23h pour le dénouement de cette rencontre. Et bonsoir Sabine Marin.
Bonsoir Lénaïque.
Vous accompagnez les auditeurs d'Europe 1 tout le week-end. On rappelle le numéro de téléphone, le 3921.
Et je vous donne rendez-vous dans une demi-heure pour les prochaines infos.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.